Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la RSE dans le monde des entreprises. Que faut-il savoir? À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Ibrahim Amoro Keïta. Bonjour M. Keïta, vous allez bien j'espère? Je merci, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau.
Le plaisir est partagé.
D'accord. M. Keïta est docteur en sciences de gestion, spécialiste en management des organisations, spécialité RSE, conduite du changement dans les organisations. C'est bien ça?
C'est bien ça.
D'accord. Donc, M. Keïta, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la notion de RSE dans le monde des entreprises.
D'accord.
Déjà, la première question que je peux vous poser pour vous, c'est quoi la RSE?
Merci, madame, pour cette question. Vous venez d'évoquer un concept polysémique. Polysémique, ça veut dire plein de sens.
Un peu fort.
Ok. Donc, j'ai dit que vous venez de parler d'un concept polysémique qui est plein de sens. Maintenant, la RSE, déjà, c'est un sigle, mais qui peut être défini par deux appellations. Soit la responsabilité sociale des entreprises, soit la responsabilité sociétale des entreprises. Les deux appellations se disent. Avant de rentrer dans cette définition, il faut comprendre que peut-être d'autres peuvent demander pourquoi on dit responsabilité sociale, pourquoi on dit responsabilité sociétale. Et il faut tout simplement retenir que la responsabilité sociale, c'est l'appellation des anglo-saxons.
D'accord.
Et la responsabilité sociétale, c'est l'appellation des Européens.
Ok.
Voilà. Donc, à partir de là, nous pouvons donner une petite définition de la notion de RSE, qui signifie que les entreprises doivent intégrer volontairement dans leurs pratiques de tous les jours, dans leur stratégie commerciale, dans leur stratégie de fonctionnement, des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités. Mais aussi que l'entreprise doit gérer les relations avec ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire ses partenaires.
Ses partenaires.
C'est ça.
D'accord. Mais comment est-ce qu'on arrive même à la responsabilité sociétale de l'entreprise? C'est-à-dire comment est-ce que même ce concept-là arrive? Est-ce qu'il y a, quelque chose qui a mené à cela? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées? Comment est-ce qu'on arrive même à ce concept-là?
Bien. La responsabilité sociale des entreprises a vu le jour... dû à des événements.
Okay.
À des événements liés à ce qu'on appelle la corporate governance, c'est-à-dire la gouvernance d'entreprise. Vous savez, l'entreprise, de façon générale, elle vise un objectif,
okay,
qui est la réalisation du profit. Mais il se trouve que cette entreprise, si elle se lance seulement dans la recherche du profit, sans tenir compte de son environnement, de ses partenaires, il est dit que cette entreprise est appelée à disparaître.
D'accord.
Mais si elle doit vivre aussi sans réaliser de profit, elle va disparaître.
D'accord.
Donc, pour ce faire, la notion de RSE a vu le jour dans le contexte américain, aux États-Unis, et c'était plus précisément en 1953. En 1953, avec la publication d'un livre qui a été publié par un universitaire du nom de Howard Bowen. Le livre était intitulé « La responsabilité sociale du businessman ». Maintenant, qu'est-ce que Howard Bowen a dit dans ce livre? Tout ce qui était une obligation sur les entreprises, notamment les paiements des impôts et autres, il a parlé de ça.
Ouais.
Que c'est vrai, les chefs d'entreprise, les entreprises s'acquittent de ces obligations. Mais qu'est-ce que ces entreprises peuvent faire au-delà de toutes ces obligations? C'est ce qui fait même de la RSE des pratiques volontaires.
D'accord.
Donc, pour ce faire, à l'issue de là, il ne pouvait pas y avoir encore une obligation. Donc, Howard Bowen, en tant qu'universitaire, il a publié ce livre pour permettre aux chefs d'entreprise de comprendre qu'il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est-à-dire pour contribuer au développement de leur communauté, mais qui ne relève pas d'une obligation,
d'accord,
mais qui est volontaire.
Okay, d'accord.
Voilà.
Mais comment est-ce que ça s'applique concrètement en entreprise?
Bien, l'application de la RSE suit ce qu'on appelle une démarche.
D'accord.
Maintenant, quand on parle d'une démarche, c'est une succession d'étapes. une succession d'étapes. Mmh. Ça veut dire que la RSE commence d'abord par une politique.
D'accord.
Après une politique, c'est un processus. Après un processus, c'est la pratique.
D'accord.
Donc, la RSE doit être intégrée dans la politique générale de l'entreprise. Ce n'est pas une activité qu'on doit prendre à la légère. Donc, l'entreprise, telle qu'elle élabore sa politique financière, telle qu'elle élabore sa politique ressources humaines, la politique RSE doit être élaborée par l'entreprise bien avant le début de ses exercices, qui fait partie des différentes fonctions de l'entreprise. Maintenant, après cette politique, après avoir pris en compte de façon globale la RSE comme politique, maintenant, il y a un processus. Maintenant, ce processus va maintenant partir sur la base d'une information générale pour permettre et aux dirigeants et aux actionnaires et aux salariés de comprendre que l'entreprise est lancée dans une activité qu'on appelle la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Et à l'issue de là, maintenant, la pratique va commencer. Donc, la pratique, c'est l'opérationnalisation de la politique qui a été élaborée par l'entreprise. Voilà.
Ok, mais est-ce que la RSE, est-ce que déjà c'est quelque chose qui se fait en fonction de la taille de l'entreprise ou bien en fonction du domaine d'activité, où déjà toute entreprise peut dire bon, aujourd'hui je décide de mettre une politique de responsabilité sociétale en place. Est-ce que ça dépend vraiment aussi du type d'activité qu'on fait?
Une très bonne question à ce niveau. Parce que, vous savez, la RSE, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment une activité qui est transversale. Elle s'applique dans tout type de structure.
D'accord.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un concept qui doit être contextualisé.
D'accord.
Donc, le volet contextuel est très important. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle des grandes entreprises. Nous avons des petites et moyennes entreprises, nous avons des très petites entreprises et nous avons même des entreprises du secteur informel. Toutes ces entreprises-là peuvent mettre en place des démarches RSE et aussi nous avons les différents secteurs d'activité. Nous avons des différents secteurs d'activité et aujourd'hui, la RSE est utilisée dans tous les secteurs d'activité, sans exception. Dans tous les secteurs d'activité.
Mais est-ce qu'il n'arrive pas souvent que, c'est vrai que vous avez tout à l'heure mentionné dans vos propos que la RSE, elle n'est pas obligatoire. C'est vraiment volontaire, c'est à chaque entreprise de voir si elle peut ou pas. Mais est-ce qu'il n'arrive pas souvent que, par exemple, c'est une question que je pose, que l'État peut dire, bon, peut-être telle structure fait de gros chiffres d'affaires, mais cette structure est dans une activité, dans un secteur d'activité qui donne énormément.
Okay.
Est-ce qu'en ce moment-là, l'État ne peut pas exiger aussi que cette structure-là, ça donne à la responsabilité sociétale? Est-ce que ça ne peut pas arriver?
Bon, au fait, l'allure à laquelle on est en train d'aller, je pense que la RSE finira par prendre cette dimension. Sinon, à la source, elle est volontaire. Mais il y a certaines activités qui impactent trop l'environnement.
Oui.
Donc, étant donné que la responsabilité de l'État, c'est de protéger l'environnement, donc l'État peut arriver, dans les jours à venir, à essayer d'imposer la responsabilité sociale des entreprises.
Oui.
Comme je l'ai dit, il y a dans le secteur peut-être bancaire, et aujourd'hui, la BCAO a fait de cette pratique, la RSE, une forme d'obligation.
D'accord.
Ça veut dire que les banques secondaires doivent avoir un service RSE en leur sein où les activités RSE doivent être affiliées aux activités bancaires aujourd'hui. Parce qu'il leur faut obligatoirement un rapport RSE pour la levée des fonds.
D'accord. Maintenant, la responsabilité sociétale de l'entreprise, la plupart du temps, ça dépend de quel département? Dans une entreprise, dans laquelle il y a plusieurs départements. Est-ce que c'est relié à quel département la plupart du temps? Est-ce que c'est le département marketing, le département des ressources humaines ou autre? Quel est le département qui est rattaché à la responsabilité sociétale de l'entreprise? Qui est en charge, en fait?
Ok. Là aussi, ça dépend de la structure des entreprises. Vous allez voir, dans certaines structures, dans certaines entreprises, le service RSE est créé et ce service est autonome.
D'accord.
Nous identifions carrément le service responsabilité sociale des entreprises.
Okay.
Mais dans d'autres structures, la RSE est rattachée généralement soit à la fonction RH, ressources humaines, soit à la fonction marketing. soit à la fonction gestion des ressources humaines, soit à la fonction marketing.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ok, c'est bien noté.
Si, si.
Ok. Maintenant, la RSE, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, quelles sont la plupart du temps les activités qui sont menées en termes de RSE au niveau de l'entreprise? Est-ce que, par exemple, ça, c'est forcément les finances? Est-ce que, quelles sont la plupart du temps ce qui revient dans l'activité même générale de la RSE? Qu'est-ce qu'il faut concrètement quand on parle de RSE? C'est vrai que c'est un thème, la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais ça concerne quoi exactement la plupart du temps?
Mais justement, c'est d'ailleurs, c'est pour cela, dans les propos, j'ai eu à le dire. Vous savez, les pratiques RSE diffèrent d'un secteur d'activité à un autre, d'une entreprise à une autre. Donc, quand on prend la RSE de façon générale, elle se focalise généralement sur trois volets ou sur trois dimensions, notamment une dimension économique, une dimension sociale et une dimension environnementale.
D'accord.
Donc, les pratiques, par exemple, dans nos entreprises maliennes de façon générale, vous allez voir que les pratiques RSE se focalisent beaucoup plus sur le volet social.
Ok.
Sur le volet social, c'est-à-dire au niveau du personnel. Bientôt, nous sommes le mois de Ramadan. Donc, nous allons voir des activités RSE, des pratiques RSE dans beaucoup de nos entreprises maliennes. Mais peut-être qu'ils ignorent que ça fait partie des activités RSE.
Oh, ouais.
Voilà, donc c'est peut-être ces dons de sucre, ces dons de viande, ces dons d'huile, de lait que les entreprises font aux salariés, font partie des activités RSE.
D'accord.
Voilà, okay. Dans nos entreprises.
Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la RSE apporte à une entreprise qui la mène, qui l'exerce, et une autre entreprise, par exemple, qui pratiquement ne s'intéresse vraiment pas à la RSE? C'est-à-dire, la différence, c'est quoi? L'entreprise qui va utiliser, qui va faire la RSE, qu'est-ce qu'elle gagne? Et celle qui ne mène pas la RSE, qu'est-ce qu'elle aussi? Bon.
Au fait, à ce niveau, vous savez, la RSE est toujours bénéfique.
Okay.
Maintenant, les entreprises qui mènent des activités RSE ont tendance à tout de suite créer la différence entre elles et celles qui ne pratiquent pas de la RSE.
Okay.
La première des choses, le nerf de toute entreprise, sont les ressources humaines. Les ressources humaines de qualité. La RSE permet d'abord de retenir, de fidéliser les compétences au sein des entreprises.
D'accord.
Ça, c'est l'un des premiers objectifs de la RSE. Ça les permet de garder les compétences.
Mm-hmm.
Mais aussi, la RSE permet à l'entreprise de gagner en réputation et en image. Ça permet à l'entreprise d'avoir une bonne image, d'avoir une bonne réputation. La RSE permet également à l'entreprise de créer cette cohésion sociale entre elle et ses voisins, c'est-à-dire ses partenaires. Là où les familles qui l'entourent, la RSE lui permet de gérer la relation. Et la RSE permet à cette communauté-là d'aller jusqu'à protéger l'entreprise. Même si l'entreprise, par exemple, les nuits, même s'ils sont absents, les salariés sont absents, vous allez voir que la RSE va permettre à la communauté voisine qui est là de protéger les intérêts de l'entreprise. Voilà.
D'accord. Donc, c'est-à-dire que celle qui ne fait pas, elle perd tout ça.
Justement.
Elle peut
gagner. Non, elle peut gagner.
Ouais.
Ça ne veut pas dire qu'elle perd.
Ouais.
Mais si elle a plus à gagner en faisant de la RSE qu'en ne le faisant pas.
Ok, d'accord. Oh, oui. Ok, maintenant, est-ce que c'est vrai que, bon, on mène la RSE et tout. Tout à l'heure, vous avez donné quelques avantages pour les entreprises qui font la RSE. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a vraiment les retombées de la RSE? Comment est-ce que ça s'évalue même la RSE? Est-ce que déjà c'est possible d'évaluer les retombées de la RSE d'une entreprise? Si oui, comment est-ce que ça s'évalue la plupart du temps?
Bien, au fait, à ce niveau aussi, c'est ce qui fait que les entreprises, beaucoup d'entreprises sont réticentes vis-à-vis de la RSE parce qu'elles ne voient pas concrètement les retombées.
Oui, c'est ça.
En réalité, pour pouvoir évaluer les retombées de la RSE, il faut se focaliser sur ce qu'on appelle les critères ESG, les critères environnementaux, les critères sociaux et les critères de gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça permet à l'entreprise d'élaborer une forme de matrice,
d'accord,
qu'on appelle la matrice de matérialité.
Okay.
Et cette matrice va permettre à l'entreprise de recenser d'abord les différents volets, c'est-à-dire le volet environnemental, le volet social et le volet de gouvernance. Et à partir de là, l'entreprise elle-même va identifier les activités, c'est-à-dire l'objectif qu'elle s'est fixé. Par exemple, elle peut se fixer, c'est-à-dire l'objectif de réduire la consommation d'eau et d'électricité. Elle peut se fixer des objectifs concernant la réduction de la consommation de papier, ainsi de suite.
Ouais.
Maintenant, si l'entreprise se fixe ses objectifs, maintenant, les activités RSE qu'elle va mettre en œuvre, par exemple, vis-à-vis de la sensibilisation des salariés, par exemple, vous allez voir, même les salariés en sortant, ils vont éteindre les ventilos, ils vont éteindre les clims, ils vont éteindre les ampoules.
Mm-hmm.
Donc, ce qui va permettre à l'entreprise de réduire au maximum sa consommation en énergie, et en électricité et en eau.
D'accord.
Maintenant, à la fin de l'exercice, l'entreprise pourra voir entre les factures de l'année passée avant la RSE et après la mise en pratique de la RSE avec la sensibilisation, quelle est la différence entre la consommation d'eau et d'électricité. Et l'entreprise va constater qu'il y a une baisse au niveau de la consommation d'eau et d'électricité due aux activités de RSE.
Okay.
Voilà, donc c'est comme ça qu'on évalue ces activités RSE.
C'est pas évident aussi.
C'est, oui, justement.
D'accord, c'est bien noté. C'est vrai que, bon, la RSE, on a bien parlé de la RSE, on a donné les avantages que ça peut donner, mais en toute chose aussi, peut avoir des inconvénients.
Bien sûr.
Voilà. Quels peuvent être les inconvénients de la RSE?
Au fait, les inconvénients de la RSE, moi, je dirais d'abord que c'est peut-être le manque de compréhension.
D'accord.
Le manque de compréhension de la RSE.
OK.
Parce que c'est ce qui fait que le fait que beaucoup de gens ne comprennent pas réellement la RSE, dû au mimétisme.
Mm-hmm.
Au mimétisme, c'est-à-dire, on essaie de copier dans d'autres pays, dans d'autres contextes, et on essaie d'imiter sans que les contextes ne soient les mêmes.
Mm-hmm.
Donc, logiquement, nous allons voir dans cette activité des freins et non des avantages.
D'accord.
Donc, le côté coût, le côté coût, le côté argent, ça peut être un facteur. Mais il y a toujours, si on met 500 000 dans la RSE, il faut s'attendre à des retombées, généralement, à des retombées d'1 million ou d'1 500 000 francs sur l'entreprise. Des retombées positives.
D'accord. Voilà. Okay. D'accord, c'est bien noté. Mais c'est vrai que vous avez mentionné tout à l'heure le fait que la plupart du temps, il y a beaucoup d'entreprises quand même qui font du copier-coller, en fait.
Quoi. C'est ça.
C'est-à-dire, bon, peut-être que j'ai une structure qui a fait la RSE. Bon, je me dis que je veux... La plupart du temps, les gens ne comprennent pas trop. Comment est-ce qu'une entreprise aujourd'hui, vous pensez, doit mettre en place sa politique de RSE? Est-ce qu'il doit faire appel à des structures qui sont spécialisées? C'est déjà, mais il y a des structures spécialisées en RSE ici qui aident les entreprises à mettre en place leur politique de RSE. Ou bien, il faut faire appel à des personnes. Comment est-ce que la plupart du temps, les entreprises font même déjà au Mali pour mettre en place leur politique de RSE?
Ok. Bon, en la matière, vous savez, pour la mise en œuvre de la RSE dans les entreprises maliennes, vous savez, c'est compliqué.
Okay.
Personnellement, j'ai approché pas mal d'entreprises, d'abord pour leur proposer des offres de formation dans ce domaine-là, pour uniquement permettre à ces entreprises de comprendre juste le concept de RSE. Mmh. Maintenant, à l'issue de là, s'il pouvait y avoir des politiques d'accompagnement, on allait le faire. Mais à plusieurs reprises, je n'ai pas eu de retour favorable. Donc, j'ai compris qu'en réalité, c'est le concept qui n'est pas tellement compris. Mais effectivement, pour la mise en œuvre de la RSE, logiquement, les entreprises doivent se faire accompagner.
Okay.
Elles doivent se faire accompagner, elles doivent se faire assister. D'abord de la compréhension, de la formation, de l'information et de la mise en œuvre, elles doivent se faire accompagner, obligatoirement.
D'accord. Ok. Quel conseil vous pouvez donner aux entreprises qui, vous avez fait des démarches auprès de ces entreprises, mais qui n'ont pas abouti. Donc aujourd'hui, bon, vous avez l'opportunité aussi à travers ces écrans de donner aussi un message à ces structures-là. Quel conseil vous pouvez donner à ces entreprises qui, peut-être, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas le concept, mais comment est-ce que vous pouvez les emmener à aller adopter ce concept de RSE-là?
Bien. Ce que je peux donner comme conseil aux entreprises maliennes, c'est vraiment de chercher encore à comprendre le concept de RSE. Chercher à comprendre l'importance de la RSE pour le fonctionnement des entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler sans les salariés. Et vous allez voir que la RSE permet à ces entreprises-là de maintenir ses salariés en bonne santé, d'abord en bonne santé, mais dans un état d'esprit sain.
Okay.
Et dans un corps sain, et ça ne peut que profiter à ces entreprises-là.
D'accord.
Donc vraiment, c'est un conseil et c'est aussi une demande à ces entreprises vraiment de chercher à comprendre la notion de RSE qui peut les apporter encore beaucoup plus que ce qu'elles sont en train de recouvrir aujourd'hui en termes de retombées, surtout en termes de retombées financières.
D'accord. Ça, bon, ça, le fait aussi que les entreprises, peut-être que le retour, aussi, le fait qu'il n'y ait pas de retour, comme vous avez expliqué, c'est aussi le fait que les gens ne comprennent pas le concept.
Justement.
Bali, c'est sûrement un concept aussi qui est encore nouveau. Il y a de grandes structures qui l'utilisent.
C'est ça.
Mais ce n'est pas pour toutes les structures. Toutes les structures ne font pas de la RSE.
Justement.
Celles qui peuvent le faire le font, mais ce n'est pas un concept qui est très divulgué quand même au Bali.
Bien
donc
sûr.
Ça peut se comprendre. J'espère qu'à travers cette émission, les structures sauront comment il faut faire et puis c'est quel gain
justement
en pratiquant le concept de la RSE. Nous allons passer maintenant à la question de la semaine. Ok, Monsieur Keïta, la question de la semaine vous est posée.
D'accord.
À vous aussi, c'est vous qui êtes l'invité, donc c'est
D'accord.
vous qui allez répondre à la question.
Ok.
La question a été posée par M. Diarra Mohamed, qui est entrepreneur depuis 2 ans.
Okay.
Donc, M. Diarra est un entrepreneur, un jeune entrepreneur, qui entreprend dans la vente de tissus.
D'accord.
Vous avez dit que la RSE, ce n'est pas une histoire de grande structure.
C'est ça, justement.
Voilà. Donc, lui, en tant que jeune entrepreneur, qui veut quand même asseoir sa structure et tout, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour mettre en place sa politique de RSE? Déjà, dans quel domaine, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire exactement dans la RSE? C'est-à-dire, pour pouvoir se connaître aussi, pour voir.
Très bonne question, parce que quand on essaie de voir, surtout les petites structures de ce genre, la RSE peut être un facteur qui va les permettre de se relancer. C'est vrai que la RSE demande aux entreprises d'avoir une certaine base, une certaine stabilité.
Oui.
Mais pour les entreprises ou encore pour les structures, au début, ce n'est pas toujours facile. Mais néanmoins, il peut toujours aller dans des activités quand même qui peuvent lui permettre d'être d'abord connu, c'est-à-dire approcher les clients qui sont ce qu'on appelle des parties prenantes. Mmh. Il peut approcher les clients. Maintenant, pour leur parler de, par exemple, la qualité des tissus que lui, il fait par rapport aux autres.
Okay.
Par exemple, il y a des gens qui sont allergiques à certains tissus. Okay. Maintenant, il peut approcher les salariés pour se dire que nous, les tissus que nous faisons, c'est des tissus beaucoup plus en coton. Okay. C'est pour éviter des problèmes de santé pour ceux qui ont des peaux fragiles ou pour ceux qui ont des problèmes de peau. Vous allez voir que automatiquement, ça va capter l'idée ou l'attention des clients. D'un côté, c'est pour protéger les consommateurs, c'est-à-dire les futurs clients. Mais de l'autre, vous avez vu, la RSE va lui permettre de faire ce qu'on appelle une publicité. C'est pour cela que je vous ai dit que la RSE est soit attribuée au service RH, soit au service marketing. Parce que d'autres voient la RSE comme aussi un facteur de publicité.
Mmh.
Oui.
Mais la plupart du temps, c'est vrai, à travers la réponse que vous avez donnée tout à l'heure à M. Diarra Mohamed, on a l'impression que souvent, peut-être comme j'ai dit, toujours ça revient au fait que les gens ne comprennent pas très bien la RSE. Parce qu'une petite structure peut se dire que je ne me mets pas dans la RSE parce que c'est dit que peut-être la RSE va me faire dépenser.
C'est ça.
Pourtant, ce que vous venez d'expliquer, c'est pas la dépense. C'est comme si on mettait un avantage en avant.
Mais justement.
Pour pouvoir aussi aider, protéger aussi les clients.
Justement.
Voilà. Donc, c'est vraiment là. Je crois que le plus gros problème se trouve autour de la compréhension de la RSE.
Justement.
Voilà.
Justement.
Donc, j'espère qu'à travers la réponse que vous venez de donner à M. Diarra, même les plus petites des structures,
justement.
Voilà, la plus petite des structures peut aussi se mettre dans la RSE, peut avoir une politique de RSE.
Bien sûr.
Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Keïta.
Merci
pour ces éclaircissements.
Merci.
Je pense que ça nous sert à tous.
OK.
Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nous allons passer maintenant à l'instant Malibara avec Aïssata Keïta. OK. OK, Aïssata, bonjour.
Bonjour, Sandrine.
Tu vas bien?
Oui, bien et toi?
Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on aura quoi comme thème d'instant Malibara?
Alors, aujourd'hui, comme instant Malibara, nous allons vous parler de comment maintenir un environnement de travail propre et hygiénique. La première des astuces consiste à faire un programme de nettoyage au complet. L'hygiène et la propreté doivent être considérées comme des responsabilités à partager par tous sur le lieu de travail. Vous devez élaborer un programme de nettoyage au complet avec des règles en indiquant précisément qui doit faire quoi et quand. Le nettoyage des surfaces de travail doit être effectué régulièrement pour éviter ou encore réduire la propagation des germes. Deuxième astuce pour le thème d'aujourd'hui, disposer d'un agent, des produits et des équipements de nettoyage. Un ou des agents selon la taille de votre structure. Vous devez également vous rassurer toujours de la disponibilité des produits et des équipements de nettoyage. Vous devez également vous assurer de leur réapprovisionnement fréquemment. Tous les employés doivent pouvoir accéder à des lotisses, des papiers de toilette, des désinfectants pour les mains ou encore des nettoyants pour les ordinateurs, etc. Troisième astuce pour le thème d'aujourd'hui, accentuer le nettoyage dans les zones de fort trafic. Les zones de fort trafic comme les toilettes, la salle d'attente ou encore la cuisine. Le nettoyage et l'entretien de ces espaces doivent être entretenus au mieux de vos capacités. Le coût accru du nettoyage peut être récompensé en maintenant la santé des employés et en réduisant les permissions liées aux maladies. Dernière astuce pour le thème d'aujourd'hui, interdiction de la nourriture dans certaines zones. Mettez en place des directives claires et précises dans votre programme de nettoyage en interdisant la nourriture dans certaines zones afin de réduire les particules alimentaires ou encore des déversements qui peuvent détériorer certains équipements de travail. Le reste des nourritures ou encore les emballages peuvent attirer des bactéries et encore donner une croissance bactérienne. Pour des endroits où les nourritures et les boissons sont permises ou autorisées, une attention fréquente est nécessaire pour les garder propres. J'espère qu'il vous sera utile. Désormais, vous saurez quoi faire pour entretenir votre lieu de travail propre et hygiénique. On se dit à la fois prochaine pour un autre thème. Instant Mali Barra.
Merci beaucoup. Monsieur Keïta.
Oui, madame.
Je reviens à vous.
D'accord.
Donc, je pense qu'on a énormément parlé de la RSE aujourd'hui.
Bien sûr.
Mais j'espère que nos téléspectateurs, toutes les personnes, les structures aussi qui nous suivent, seront dorénavant déjà, qu'est-ce que c'est que la RSE ?
Effectivement.
Comment la mettre en place et puis comment, quel avantage même ils ont,
c'est
gagnent,
ça,
pour pouvoir mettre cette politique-là en place.
Bien sûr.
Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin avant qu'on finisse l'émission.
Bon, le mot de fin, c'est vraiment de vous remercier et surtout de remercier mon professeur, le professeur Zachary Aoukaka, professeur titulaire du CAMES, qui est mon directeur de thèse. Je ne peux finir cette émission sans le remercier infiniment par rapport à tout ce qu'il fait pour la jeunesse malienne de façon générale. Et la jeunesse africaine et la jeunesse mondiale, donc qu'il en soit remercié. Donc, à l'issue de là, je tiens sincèrement à remercier, à vous remercier pour l'opportunité que vous offrez et aux entreprises maliennes et aux entreprises africaines de pouvoir comprendre la notion de RSE et la notion de gestion de façon générale. Je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Keïta. Ça a été vraiment un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau.
Okay.
On espère qu'on aura l'opportunité, vu que vous parlez de gestion même, de façon générale, on espère qu'on aura l'opportunité de parler d'un autre thème.
Inch'Allah.
Pour aussi permettre aux structures, de pouvoir inciter aussi les structures,
bien sûr.
Pouvoir aussi se parfaire même dans leur politique de façon générale chaque jour.
Justement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.
Merci.
OK.
Merci Aïssata.
Merci
d'avoir donné cette chronique.
C'était un plaisir.
Merci à nos téléspectateurs. C'est vous qui nous suivez chaque mercredi à partir de 20h. Nous vous rappelons que Mag en place est votre émission. Merci à l'équipe technique qui nous permet de pouvoir faire cette émission. Nous vous rappelons que Mag en place est l'émission qui est préparée, présentée par l'équipe de Mali Barra. Nous retrouverons la semaine prochaine sur Dieu Débat TV News. D'ici là, portez-vous bien.